c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers, Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, exceptionnellement, Valentine, qui va nous lire, parce que Béatrix est un peu malade et n'a pas pu venir. Bonjour Béatrix, soigne-toi bien. Et à la technique, Antoine. Au sommet, nous allons choisir de vous parler de quelqu'un qui est en exil, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
Ensuite, nous allons parler de Pérou, nous allons lire de quelques poèmes, parce que notre association d'Opéal est inscrite dans le printemps des poètes, affiché un peu partout en France. Et nous allons passer aussi un reportage envoyé par Radio Nationale d'Espagne, gardé dans les archives d'Opéal, sur une poétesse argentine avec un destin tragique. Voilà donc notre sommet pour cette semaine. Je laisse la parole à Valentine, qui va nous parler d'un ex-président brésilien qui est où?
Bolsonaro, en Floride, aux États-Unis. Au numéro 200 de Auburn Avenue, en Floride, se trouve une grande maison dénuée de charme. Elle comporte une cuisine équipée, un spa, un salon cinéma et une salle de jeu. Mais tout cela ne suffit pas à redonner le moral à l'actuel locataire, un homme de 67 ans, Jair Bolsonaro, l'ex-président du Brésil. Un exil lourd de sens pour ce leader d'extrême droite, désormais réduit au silence, à la réclusion et à la solitude. Sur le papier, Bolsonaro est un territoire ami dans cette Floride conservatrice, mais il en sort peu et ses sorties sont fugaces. Les habitants ne croisent que rarement ce curieux résident, auquel il arrive de déambuler main dans les poches dans les supermarchés. Sa vie sociale est pour le moins limitée. Donald Trump, son ami, ne l'a toujours pas invité dans la luxueuse demeure de Mar-a-Lago. Les trois fils sont plutôt absents. Quant à sa femme, elle est souvent à Brasilia, occupée à préparer son propre avenir en politique. Les réseaux sociaux de Bolsonaro, jadis si influents, sont devenus atones. Côté financier, la situation n'est guère plus brillante. Résider en Floride a un coût, y compris pour les contribuables, brésiliens, à qui le séjour de l'ex-président et son équipe a déjà coûté environ 200 000 euros. À en croire la presse, la location de sa maison lui coûterait à elle seule jusqu'à 940 euros par jour. De temps à autre, quelques fans brésiliens passent sur Auburn Avenue pour apercevoir Bolsonaro en chair et en os. Ils repartent souvent déçus. Le militaire outrancier d'autrefois ne leur décoche que quelques blagues et des demi-sourires. Le cœur n'y est pas. La santé non plus. Il se remet d'une infection bactérienne contractée fin 2022. À Brasilia, les juges le tiennent à la gorge. Bolsonaro voit son nom ajouté à la liste des suspects dans l'enquête sur le saccage des institutions. Il se cherche une terre d'exil, demande une prolongation de 6 mois de son visa aux États-Unis, explore l'option italienne. À un journaliste, il confie: « Mes grands-parents sont nés en Italie et selon votre législation, je suis italien.
Merci beaucoup, Valentine, merci. Donc, si nous avons bien compris, l'ex-président Bolsonaro est en exil, mais je crois qu'il a décidé, vous l'avez dit, à la fin, je crois, il va revenir au Brésil, n'est-ce pas? Apparemment, il y a...
Comment?
On ne le dit pas, ça, non. Ça n'a pas été dit.
Non.
Mais d'après mes infos, il essaie de revenir au Brésil, mais les juges l'attendent, parce que bah, probablement il est impliqué dans beaucoup de trucs un peu louches.
Quanta gente existe por aí que fala tanto e não destaca, ou faz e mata. Já não utilizei de toda a escola, não fala mais que com nada, ninguém e nada.
Vous êtes venu écouter l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler d'une situation dans un pays avec une très longue histoire, très riche d'abord l'histoire du Pérou. Mais en ce moment, il y a des problèmes graves. Et Valentine va nous donner quelques infos sur ces problèmes au Pérou.
Bien sûr, le Pérou. La révolte du pays profond. La destitution par le Parlement du président Pedro Castillo en décembre 2022 a plongé le pays dans le chaos. Inégalités sociales abyssales, disparités régionales, racisme, corruption endémique, les raisons de la colère se superposent et se renforcent. Trois mois après le début de la crise politique provoquée par la destitution du président Pedro Castillo, le 7 décembre 2022, et attisé par la férocité de la répression policière, le Pérou continue de se déchirer. Jeudi 2 mars, un nouveau contingent se manifestant arrivé à Lima, la capitale, depuis le sud du pays. Ils exigent, le départ de Dina Boluarte, la vice-présidente arrivée au pouvoir après la chute de Pedro Castillo, mais également la tenue d'élections immédiates et la formation d'une assemblée constitutionnelle. constituante, excusez-moi. Or, Madame Boluarte n'entend pas démissionner et le Congrès se refuse à convoquer les élections anticipées. Que se vaillant todos, tout dehors. Le slogan clamé dans les cortèges dit une rage profonde. Inégalité, racisme, corruption, les raisons de la colère se superposent et se renforcent. La révolte est partie des campagnes. Les premiers à se mobiliser ont été les paysans autochtones, indigènes. Ils avaient massivement voté pour Pedro Castillo, issu, comme eux, du monde rural. Le sud du pays, d'où est partie la vague de protestation, a également été le principal théâtre du déchaînement des violences policières. Au total, 48 manifestants et un policier ont été tués. L'état d'urgence est toujours en vigueur dans cette région. Nous avions notre président, on nous l'a pris. Déploré, un paysan à Cuzco pendant les manifestations. Pour ceux qui descendent dans les rues afin de protester, Pedro Castillo incarnait un Pérou qui ne se sent pas représenté à Lima. Issu du même parti de gauche que M. Castillo, Dina Boluarte est perçue comme une traîtresse. Malgré la répression aussitôt mise en place, la mobilisation s'étend au reste du pays et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Aucun des 6 présidents élus depuis 2016 n'a terminé son mandat. En 6 ans, le pays a connu 15 premiers ministres. Le Pérou est devenu le pays le plus inconstant du continent. L'un des plus inégalitaires également, 1% de la population détient 28% des richesses. Le Pérou a peu changé depuis la fin de la vice-royauté il y a 2 ans, depuis son indépendance en 1821. Les élites de la capitale continuent d'étourner le dos au reste du pays et de le mépriser, explique le juriste et ex-ministre de la Justice, Diego Garcia. Lima vit dans une bulle sur la côte pacifique, loin des Andes, qui traverse le pays du nord au sud et de l'Amazonie dans le Grand Est. Mosaïque humaine, le pays compte 55 peuples autochtones et presque autant de langues parlées. Les locuteurs Quechua et Aymara représentent 4,5 millions de personnes sur une population de 33 millions. La plupart des richesses minières, pétrolières et gazières du pays sont localisées dans les Andes et en Amazonie. Plus de 55% des habitants de l'Amazonie vivent en ville. Les jeunes autochtones font de plus en plus d'études.
Oui, c'est vrai que c'est une situation très compliquée avec les habitants autochtones, comme on le dit. Parce qu'on utilise le mot autochtone pour ne pas dire indien, parce qu'ils considèrent que le mot indien, c'est presque un insulte. Et vous savez pourquoi on appelle indien ces habitants primitifs en Amérique latine? Pourquoi?
Non, pas du tout.
Non, parce qu'au départ, Christophe Colomb allait découvrir l'Inde. Et il a fait un tour, et c'est là qu'il est tombé sur une île, la République dominicaine. Et de là est parti le nom indien, parce qu'il pensait que c'était l'Inde.
Ok.
Voilà. Mais vous le savez, Antoine, vous le saviez. Alors, nous allons faire une pause musicale avec des musiques des Andes. Thank you. musique des Andes. Et notre association est inscrite dans le Printemps des poètes qui se déroule ce mois de mars. Donc nous allons lire un poème d'un poète mexicain qui s'appelle
Octavio Paz.
Voilà, Valentine, très bien. Allez-y, en français d'abord, et ensuite nous allons le lire en espagnol.
Ok. À 10h du soir, au café d'Angleterre, à part nous trois, il n'y avait personne. On entendait dehors le pas humide de l'automne, pas d'aveugle géant, pas de forêt marchant sur la ville. Avec mille bras, avec mille pieds de brume, visage de fumée, homme sans visage, l'automne marchait vers le centre de Paris, d'un pas sûr d'aveugle. Les gens passaient dans la grande avenue, certains d'un geste furtif s'arrachaient le visage. Une prostituée belle comme une papesse traversa la rue et disparut dans un mur verdâtre. Le mur se referma. Tout est porte. Il suffit de la légère pression d'une pensée. La vie s'ouvre en grand. Quelque chose se prépare, dit l'un d'entre nous. Nous nous dispersons dans la nuit, mes amis s'éloignent. J'emporte leurs paroles comme un trésor brûlant. Nous avons perdu toutes les batailles. Tous les jours, nous gagnons une poésie.
Merci Valentine. Nous allons lire le même poème en espagnol, parce que c'est un poète mexicain, donc c'est aussi c'est l'émission sur l'Amérique latine. Noche en claro. A las 10 de la noche, en el café de Inglaterra, salvo nosotros tres, no había nadie. Se oía afuera el paso húmedo del otoño, pasos de ciego gigante, pasos de bosque llegando a la ciudad. Con mil brazos, con mil pies de niebla, cara de humo, hombre sin cara, el otoño marchaba hacia el centro de París con seguros pasos de ciego. Las gentes caminaban por la gran avenida, algunos con gestos furtivo se arrancaban el rostro. Una prostituta, bella como una papisa, cruzó la calle y desapareció en un muro verduzco. La pared volvió a cerrarse. Todo es puerta. Basta la leve presión de un pensamiento. Se abre de par en par la vida. «Algo se prepara», dijo uno de nosotros. Nos dispersamos en la noche. Mis amigos se alejan. Llevo sus palabras como un tesoro ardiendo. Hemos perdido todas las batallas, todos los días ganamos una poesía. Voilà donc ce poème de ce poète mexicain Octavio Paz. Et je vais me permettre de lire un poème que Béatrice apprécie beaucoup, en espagnol. C'est un poème de Pablo Neruda qui s'appelle Ton rire, mais je vais le lire en espagnol. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados a veces de haber visto la tierra que no cambia. Pero al entrar, tu risa sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida. Ríete de la noche, del día, de la luna, ríete de las calles torcidas de la isla, ríete de este torpe muchacho que te quiere. Pero cuando yo abro los ojos y los cierro, cuando mis pasos van, cuando vuelven mis pasos, niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa nunca, porque me moriría. C'est beau le poème, n'est-ce pas? Vous avez compris un peu?
Pas du tout.
Bon. Nous avons un reportage envoyé par Radio Nationale d'Espagne sur une poétesse argentine de destin tragique qui s'appelle Alfonsina Storni. C'est un reportage en espagnol.
Alfonsina Storni, mi casa es el mar. La salvadoreña Tania Pleitez Vela ha publicado en España el libro biográfico Alfonsina Storni, mi casa es el mar, que escudriña las vivencias de esa poetisa. La publicación detalla con riqueza de datos, producto de una investigación de casi 2 años, la personalidad de Alfonsina Storni, con sus triunfos, su creatividad literaria, sus fracasos, sus depresiones y su última voluntad de suicidarse, tal como ya lo habían hecho otros intelectuales argentinos. Licenciada en Relaciones Internacionales en la Universidad Latina de Costa Rica y colaboradora de estudios biográficos en la Universidad de Barcelona, Tania Pleitez descubrió en Alfonsina Storni aspectos biográficos de una mujer extraordinaria y singular. Tania Pleitez, escritora y autora de la biografía de la poetisa argentina.
Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña. Fatigada del llanto, yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que yo no pude ser como las otras, casta de buey con yugo al cuello. Libre se eleve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza.
Siempre va a ser sus experiencias personales las que ella va a trasladar a su poesía en la primera etapa, que podríamos decir que es la etapa posmodernista o modernista.
En el fondo del mar hay una casa de cristal. A una avenida de maréporas da un gran pez de oro. A las 5 me viene a saludar. Me trae un rojo ramo de flores de coral. Duermo en una cama un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiños a través del cristal.
Luego hay una poesía más de vanguardia, más experimental, en donde ella ya no se refiere directamente a sus experiencias personales, sino que es más dibujos verbales, digamos, ¿no? De sus sensaciones, de sus pensamientos, de sus experiencias, pero ya no tan, de una manera tan específicamente autobiográfica.
Tania Pleitez ha logrado escribir una biografía que atrapa al lector con un ritmo cautivante en el cual demuestra por qué Alfonsina Storni es una mujer que salió del molde femenino que imponía la sociedad argentina de principios del siglo XX.
Es un feminismo primitivo, más bien, dentro del contexto de la Argentina de ese momento. Un feminismo que ella ya va delineando lo que va a ser la mujer moderna argentina. Sin embargo, el feminismo de Alfonsina ataca más a la mujer que al hombre, porque ella piensa que la mujer es culpable de que que caigan sobre ella estos tópicos o estos arquetipos de mujer como de ser débil o de dependiente del hombre o de muy interesada solo en su aspecto físico. Entonces ella en sus artículos periodísticos lo que va a instar a las mujeres es que rompan esos tópicos y esos arquetipos y que demuestren que son seres pensantes.
Voilà donc on a abrégé ce reportage parce que nous allons écouter une chanson justement Alfonsina Storni y el mar.
Sendero solo, de pena y silencio llegó, y hasta el agua profunda. Y un sendero solo, de pena muda llegó, y hasta la puma. Sabes yo que angustia te acompañó, que dolores vieron cayó tu voz, para recostarte arrullada en el campo de la caracola marina. Hay la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te va Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar,
Alfonsina y el mar, notre émission L'autre Amérique sur Radio Libre en Périgord. Notre émission touche à sa fin, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent. Merci à Valentine qui a aimablement accepté de lire pour la première fois.
Et ben merci à vous.
D'accord. Et merci à Simon et à Antoine qui ont assuré la technique. Muchas gracias, hasta pronto.
Y si llama él, no le diga nunca que estoy, di que me he ido. Te va Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar y una voz.